France Culture. Avoir raison avec Paul Valéry. Géraldine Mosna-Savoie.
La durée des œuvres est celle de leur utilité. Il y a des siècles pendant lesquels Virgile ne sert à rien. Cette phrase est de Paul Valéry et manque de chance ou comble de la clairvoyance, elle semble, 80 ans après sa mort, parfaitement s'appliquer à lui et à son œuvre. Qui pourrait donc se targuer de relire Paul Valéry comme on se vante de relire Proust ou Hugo ? Qui pourrait aujourd'hui citer sa sensuelle Jeanne d'Arc, son appel si actuel à l'Europe, son Monsieur Test si contemporain avec son côté zen ? Quelques vers du cimetière marin appris en classe, une phrase qui claque sur les civilisations, le nom d'une rue, d'une fac tout au plus, mais quoi d'autre ? Il suffit pourtant, comme le dit encore Valéry, d'un seul exemple, d'un seul argument, d'un seul prétexte pour qu'une œuvre revive. Et aujourd'hui, cela ne manque pas. Europe, réveil de la poésie, critique formaliste, crise de l'esprit et crise d'angoisse. Toute cette semaine, on dépoussière le trop officiel Paul Valéry. Et aujourd'hui, premier épisode, derrière l'académicien et ses moustaches, toute une vie.
L'immortel Valéry n'est plus. Sur un immense cénotaphe, érigé sur l'esplanade qui sépare les deux corps du palais de Chaillot, repose son cercueil, qu'ont veillé toute la nuit des gardes républicains, sabre au clair, en grande tenue. Les statues et les fenêtres des palais sont toutes voilées de gaze noire, et tout à l'heure, Monsieur Ferral, administrateur du Collège de France, M. Georges Duhamel, secrétaire perpétuel de l'Académie, et M. Capitan, ministre de l'Éducation nationale, essaieront d'exprimer le deuil de la pensée humaine que seul le recul de l'histoire permettra d'apprécier exactement. Et tandis que le porte-drapeau, dans un frémissement, redresse son drapeau, aux applaudissements de la foule, le général de Gaulle descend de sa voiture.
Bonjour Benoît Peters.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Vous êtes écrivain, scénariste, on vous doit plusieurs biographies, dont celle de Paul Valéry, Paul Valéry, une vie, parue en 2014, disponible en chant Flammarion. Mais déjà en 1989, vous aviez écrit Paul Valéry, une vie, d'écrivain. On ouvre cette série d'émissions sur Paul Valéry, 80 ans après sa mort. On vient d'entendre ses funérailles nationales. Comment expliquez-vous un tel oubli, un tel dédain de Paul Valéry, alors qu'il a été quand même célébré en grande pompe à sa mort ?
Oui, les funérailles nationales avaient été voulues par le général de Gaulle. Jean Moulin, quelques mois plus tôt, confiait à Daniel Cordier qu'il verrait bien Valéry comme président de la République à la Libération, une personnalité d'union. Il était considéré comme le prince des poètes, comme un immense penseur, comme la conscience de l'Europe. Et puis une sorte de poussière s'est déposée sur lui. Bon, il y a souvent le purgatoire pour les œuvres, mais dans le cas de Paul Valéry, c'est particulièrement injuste parce qu'il y a, et moi ça m'a frappé dès l'adolescence, un tout autre Valéry, un Valéry juvénile, un Valéry passionné, un Valéry bouillant, pétillant, en contradiction permanente avec lui-même, un destin littéraire. Et c'est cela qui m'avait frappé très tôt. Un Valéry qui était rendu quelque peu inaccessible par sa fille Agathe, qui veillait sur la statue valérienne, qui faisait de lui une sorte d'ange. Et peu à peu, au fil des ans, sont sortis d'autres textes plus intimes, des correspondances, les cahiers sont devenus accessibles dans leur masse. Et on a vu ce Valéry vivant dont j'ai essayé de faire le portrait.
Alors qu'est-ce qui vous a fasciné, vous, au moment où vous découvrez la figure de Paul Valéry ? Vous êtes adolescent, à ce moment-là, Paul Valéry commence quand même à tomber un petit peu. Bon, voilà, il commence à faire partie des meubles du patrimoine français. Ça peut d'ailleurs être une explication. C'est-à-dire que quand on devient un patrimoine, eh ben, on a tendance à faire partie du décor et on nous ouvre plus. Ou alors, est-ce que, comme je l'ai dit, Paul Valéry, cette citation, voilà, il y a des moments où son œuvre va nous être utile, d'autres moments moins. Pour vous, au moment où vous l'avez découvert, qu'est-ce qui se passait avec Paul Valéry ? Qu'est-ce qui a ouvert pour vous cet intérêt pour son œuvre ?
J'aimais sa poésie, même s'il était considéré comme un peu démodé, et j'aime toujours Le cimetière marin et d'autres textes, mais je voyais surtout en Valéry une figure un peu borgésienne. Ces écrivains imaginaires que décrit Borges dans Fiction et d'autres textes, il me semble que Valéry en faisait partie. C'est un destin, Valéry, parce que c'est un homme qui, à 20 ans, 21 ans, est adoubé par Mallarmé, qui devient une sorte de jeune poète admiré par tous, ami de Gide et de Louis.
Je précise qu'il est né en 1871 à Sète, donc éloigné quand même du milieu parisien.
Tout à fait. Il est découvert tout jeune, pendant son service militaire, par Pierre Louis, qui est un écrivain plus en vue. Il rencontre Gide, il commence à publier, ses amis attendent de lui quelque chose, et puis il va y avoir un très très long, après les premières publications admirables, un très très long retrait de Valéry, et ce qu'on appellera son silence. On croira que c'est un homme qui n'a pas tenu ses promesses, et même ses amis doutent de lui. Et puis, Gide lui demande de reprendre ses Véranciens, on est en 1912. Valéry dit « Je vais les compléter par un poème supplémentaire. » Ce sera la Jeune Parc, établie et élaborée en pleine guerre. Et tout d'un coup, en 1917, puis en 18, en 19, Valéry, presque quinquagénaire, arrive sur le devant de la scène et commence ce retour, et ce retour alors extrêmement rapide, sur le devant de la scène. Or, toutes ces années de silence, entre guillemets, n'ont pas été des années perdues. C'est des années de recherche, d'intériorité, de labeur, et tout ce que l'œuvre nous donnera après sera au fond le dépôt de cette immense préparation intérieure qui a été la sienne. Et ce sera le retour d'une vie qu'il s'était longtemps presque interdite.
C'est vrai que c'est une vie assez dingue qu'on a oubliée quand même de Paul Valéry, qui ressemble, je dirais pas à la vie de tout le monde, mais en tout cas qui peut évoquer chez tout un chacun des moments aussi où de repli, des moments de passion, des moments de doute. C'est quelqu'un qui doute beaucoup. C'est quand même un poète très prometteur, qui, après une nuit, la nuit de Gênes, du 4 au 5 octobre 1892, une crise d'angoisse, on pourrait dire ça, Benoît Peters.
Une crise d'angoisse, une révélation, un écho peut-être de la grande crise de Descartes, où Descartes cherchera à tout remettre en cause, tout ce qu'il a appris. Au fond, Valéry est dans un premier temps fasciné par la figure de Mallarmé, et reconnu par Mallarmé. Et puis il se rend compte un jour que comme poète, il risque de ne faire, de n'écrire que du Mallarmé très inférieur. C'est une expression de Valéry. Et il veut s'imposer face à une crise sentimentale qu'il vient de vivre et qui l'a rendu un peu fou. Il veut s'imposer la rigueur. Il reprend la devise de Léonard, ostinato rigore, donc la rigueur, obstinément, la rigueur jusqu'au bout. Et lui, qui n'est pas vraiment un scientifique, va s'imposer, par exemple, une sorte de cure de mathématiques. Il veut les réinventer par lui-même. Il veut tout repenser par lui-même dans ses cahiers, jour après jour, et la littérature devient en quelque sorte secondaire pendant une longue période.
C'est-à-dire qu'il écrit, mais il ne publie pas. On a, comme je l'ai dit, un poète prometteur, une nuit de Gênes comme un coup de grâce, d'une certaine manière, puis 20 ans de silence, durant lesquels il doit quand même travailler. C'est-à-dire que quand même, il doit vivre, on va en reparler quand même. C'est un auteur, un écrivain qui n'est pas juste dans la gloire, comme on peut le croire aujourd'hui, et qui vit tranquillement rue de Villejuif dans le 16e. Il a dû se marier, quand je dis qu'il a dû se marier, c'est aussi pour des raisons d'intérêt financier. Il a dû travailler auprès d'un vieux secrétaire, Édouard Lebet.
Alors, l'arrêt des publications ne se fait pas tout de suite. Il y a deux textes admirables qui paraissent dans ces années-là. L'introduction à la méthode de Léonard de Vinci et Monsieur Tess, la soirée avec Monsieur Tess. Mais il passe inaperçu. C'est beaucoup plus tard que la gloire viendra. Alors, il faut bien se représenter d'abord la question sociale. Valéry est un déclassé, on dirait peut-être aujourd'hui un transfuge de classe. Petit provincial, orphelin de père assez tôt. Sa mère elle-même a peu d'argent. Et quand il arrive à Paris, il est en décalage avec Louis, Gide et quelques autres autour de lui, qui sont grosso modo des rentiers ou qui vivent de leur plume. Donc Valéry a une jeunesse au quartier latin, dans un petit hôtel miteux qui ressemble un peu à la pension du père Goriot. Il écrit seul, il est là dans cette chambre. Il a une vie sociale et puis le deuil de Mallarmé en 1898 est un choc terrible, au fond plus grand que la mort de son père. Et à ce moment-là, il va céder un peu à un désir que Mallarmé avait eu pour lui, d'un mariage dans le milieu des peintres que Mallarmé fréquentait autour de Degas, de Berthe Morisot. Et il semble se ranger, il va avoir un travail assez terne auprès d'un homme qui s'appelle Édouard Lebet, qui a été un des fondateurs de l'agence Havas, mais qui est très très déclinant et qui va utiliser Valéry comme secrétaire jusqu'en 1922. C'est-à-dire que Valéry, 1922, c'est l'année de Charme, c'est l'année de la publication du Cimetière Marin. Valéry est déjà glorieux, mais il est encore soumis, presque comme un domestique, à ce vieux monsieur auquel il fait la lecture des sermons de Bossuet et la lecture des cours de la Bourse. Donc voilà, une vie assez étrange de ce point de vue-là, parce qu'on reprochera parfois à Valéry d'avoir cherché à gagner sa vie de différentes manières, avoir couru aux honneurs, avoir une certaine opportunisme, une certaine mondanité. Mais il faut bien voir que c'était un homme qui n'avait pas la chance de vivre de son travail. Et même quand la gloire lui est venue comme poète et comme essayiste, ses ventes étaient toujours confidentielles. Et au fond, c'est peut-être un des problèmes que les gens aujourd'hui, par rapport à Valéry, c'est qu'il n'y a pas de roman dans cette œuvre. Il n'y a pas une grande œuvre centrale à laquelle on pourrait renvoyer, comme pour beaucoup de ses contemporains. C'est une œuvre admirable, mais éparse, où il faut fouiner, chercher en fonction des aspirations de chacun, les uns pour les écrits sur l'art, les autres sur la littérature, les autres pour la pensée politique qui est extrêmement forte. Régis Debray s'y est beaucoup intéressé, par exemple. Et donc, c'est une œuvre qui n'a pas de centre. Mais on peut penser à d'autres très très grandes œuvres qui n'ont pas de centre, comme celle de Walter Benjamin, par exemple. Et Walter Benjamin, il est admiré, peut-être parce qu'il a été de son vivant comme une figure errante, d'exilé, pourchassé par le nazisme, etc. Sa mort tragique lui donne une aura qu'il faut aller chercher chez Paul Valéry pour découvrir l'être brûlant, passionné et inquiet qu'il était.
Alors justement, l'être brûlant, Paul Valéry en parle lui-même puisqu'il dit qu'il y a eu deux événements dans sa vie. Il dit « Si je me regarde historiquement, je trouve deux événements formidables dans ma vie secrète. Un coup d'État en 92 et quelque chose d'immense, d'illimité, d'incommensurable en 1920. J'ai lancé la foudre sur ce que j'étais en 92. 28 ans après, elle est tombée sur moi de tes lèvres. 92, c'est la nuit de Gênes. Et qu'est-ce qui se passe après en 1920? C'est la rencontre avec qui, Benoît Peters?
Avec une femme qui s'appelle Catherine Pozzi. C'est un éblouissement pendant une soirée, un premier dîner. Valéry se demandera juste après, puis-je être plusieurs? C'est-à-dire, puis-je rencontrer chez un autre, en l'occurrence chez une autre, le plus secret de moi-même? La passion pour la science, la volonté de tout remettre en question, mais aussi la passion tout court. Cette passion lyrique, amoureuse, qui était là très tôt chez Valéry et qu'il a voulu refouler, et refouler notamment par une vie d'allure rangée, bourgeoise, père de famille, veillant sur la santé de sa femme, toujours vacillante, Jeannie Gobillard, qui était liée à Berthe Morisot, Renoir et tout ce monde. Et Valéry, en même temps qu'il s'interdisait de publier, s'interdisait presque de vivre. Et je crois qu'il y a une formule qui est essentielle pour comprendre Paul Valéry, c'est à la fin du Cimetière Marin, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Et tenter de vivre, on doit vraiment l'entendre par-delà toute convention, c'est-à-dire que vivre n'est pas donné, vivre n'est pas acquis. Et tout d'un coup, dans cette rencontre et cette passion pour Catherine Pozzi, il va y avoir un immense retour du refoulé. C'est-à-dire que Valéry, qui s'est construit contre la folie lyrique, contre l'amour, contre la passion, contre l'érotisme, contre le corps, les voit revenir et par trois fois dans la suite de sa vie, il y aura trois grandes crises amoureuses, et de la dernière, avec une femme, Jeanne Loviton, dite Jean Voilier, de la dernière, il mourra, il se laissera mourir lorsqu'il comprendra qu'elle le laisse tomber, qu'elle l'abandonne. Donc, ce qui est très beau chez Valéry, c'est que tout cet effort vers la raison, vers la pensée, se conçoit dans une lutte avec une pulsion tout autre.
Mais ça, c'est fou, Benoît Peters, cette contradiction de Paul Valéry, parce qu'on est parti de la contradiction entre le poète d'État, l'ambassadeur culturel, l'écrivain officiel et son oubli. Mais la vraie contradiction de Paul Valéry, c'est cet être qui a voulu atteindre un esprit abstrait, parfait, connaître les lois, le fonctionnement de l'esprit, dans un esprit mathématique, logique, et qui en fait est en prise avec la passion la plus dévastatrice. C'est-à-dire qu'il dit par exemple, un grand amour, malheur insigne. Il dit aussi que l'amour, ça j'adore cette phrase, c'est une blague gigantesque et démocratique. Il déteste l'amour, il aimerait détester l'amour, mais c'est un être passionné.
Il déteste l'amour et il est débordé, il dira à la fin qu'il n'y a que ça dans les dernières notes des cahiers. Il y a chez lui cette tension permanente qui fait le prix de son œuvre. Il y a par exemple, à côté de la poésie officielle que l'on connaît dans les cahiers, ce que Michel Jarty a rassemblé en Poésie Gallimard sous le titre « Poésie perdue ». Ce sont des textes en prose, souvent d'une extrême sensualité. Il y a chez Valéry un homme qui, par exemple, est un homme de l'eau, de la mer, qui écrit des pages sur la nage, qui sont des pages absolument extraordinaires. Donc, je crois qu'on s'est un peu trompé dans l'image parfois sévère de l'académicien, et bon, c'est en partie de sa faute, parce qu'il ne voulait pas peut-être trop laisser passer à l'extérieur ce qui était l'intérieur. Un jour, il reprochera à Gide d'avoir révélé des détails très personnels dans son journal, et il dira, mais il y a ce qui est pour les tout proches, et ce qui est pour le public. Or, c'est peut-être son erreur, et l'erreur qui a été perpétrée après sa mort, c'est de vouloir gommer cette dimension qu'aujourd'hui, les lettres, notamment les très nombreuses correspondances, nous ont révélées, et révélées à un Valéry aussi d'une écriture extrêmement libre, un Valéry drôle.
Et drôle, oui, drôle.
Et canaille quelquefois, et cru dans le
vocabulaire. C'est vrai que quand il raconte ces soirées de jeune homme à Paris, qui essaye de rencontrer une jeune femme pour la nuit, bon bah voilà, moi évidemment, je m'imaginais bien que Paul Valéry avait connu d'autres personnes que sa femme, mais il y a quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus proche, beaucoup plus cool, si je puis dire.
Il y a une amitié qui survient juste avant le retour à la publication et qui est très importante, qui est avec André Breton. André Breton, qui a collecté précieusement les premiers textes de Valéry, comme Valéry avait collecté ceux de Mallarmé, vient voir Paul Valéry. Breton est tout jeune homme, il n'a rien publié. Valéry est le premier à l'encourager et on sent une relation de complicité. Il dira plus tard, Valéry Aragon, il dira « Pouvez-vous imaginer que ce monsieur a été jeune homme, quelqu'un dans le genre de Tristan Tzara ?» Il était, par exemple, ami de Jarry, l'auteur
Alors,
du Tristan Burois.
Tristan Tzara, pour les auditeurs.
Tristan Tzara, le fondateur du dadaïsme. Donc, vraiment, une figure tout à fait à rebours. Valéry a rencontré Antonin Artaud. Voyez, donc, c'est vraiment, il y a chez lui quelque chose, oui, je le redis, de brûlant, de vivant et d'extrêmement contemporain. Mais il faut défaire le Valéry des discours officiels, même si certains d'entre eux sont très beaux.
Ma vie fut toujours inquiète de tout engagement. Me dégager, ma manière fondamentale naïve. Je me suis dégagé de ma ville, de la littérature, de mon meilleur, de tout éloge, de mes admirations, du vrai et du faux, et du vrai et du faux. Au point que si quelque chose me veut engager trop intimement, je tente à m'évanouir, je me sens en aller. Et c'est pourquoi je suis si craintif, si peu sûr de moi, si défiant, si enchaîné à tant de préparations et de précautions. Je ne sais jamais si je ne vais pas me dégager, si je ne vais pas perdre tout à coup tous mes moyens. Et en fait, cela arrive. Je demeure facilement stupide, le cerveau comme arrêté, absolument interrompu. Je ne puis rien parier sur moi-même. Je sais que ma force me trompe autant que ma faiblesse. Et qui me connaît bien s'étonne des deux, et m'ignore ainsi d'autant qu'il me connaît plus, et me peut prévoir d'autant moins, moi le premier. J'ai aimé les extrêmes par l'espoir d'y trouver un fixe, la logique pour le même motif. Tout ce qui me semble sûr m'attire, moi l'incertain.
Extrait des cahiers de Paul Valéry, cet extrait date de 1908, vous le citez dans votre biographie, Benoît Peters. Alors, juste je le précise, les cahiers c'est quand même 30 000 pages, c'est 261 cahiers, donc c'est vraiment grâce à vous que j'ai trouvé ce texte qui illustre parfaitement, qui révèle parfaitement ce que l'on disait, Benoît Peters, cet être brûlant, torturé. Néanmoins, j'ai une question, est-ce qu'il suffit pour donner envie de lire Paul Valéry, de se sentir proche de lui, de l'incarner à travers son côté brûlant, sa chair, ses inquiétudes. Qu'est-ce qu'il a peut-être de plus dans ce côté brûlant ?
Bien sûr, c'est une porte d'entrée. Alors, je dirais que la première chose qui me frappe intellectuellement, c'est le doute. Le titre de votre série est « Avoir raison avec Paul Valéry ». Mais Valéry n'avait pas raison.
Et ce serait bien gardé de le dire.
Il était en permanence dans la remise en question des postulats qu'il construisait lui-même. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, d'extrêmement moderne. Il y a toujours eu des penseurs qui sont du côté de la réponse et parfois de l'assertion, et d'autres qui sont du côté du questionnement. Et ça, c'est profondément le geste valérien. Il y a évidemment non seulement la puissance de la pensée, puissance politique, puissance esthétique, mais aussi la puissance de l'écriture. Car Valéry ne se veut pas écrivain, ne se dit pas écrivain, mais c'est un des plus grands prosateurs de la langue française. Alors on connaît des formules éclatantes et un recueil comme Tel quel, par exemple, qui est une porte d'entrée assez accessible dans la matière des cahiers. Un recueil comme Tel quel vraiment regorge de développement brillant et puissant. Mais la pensée chez Valéry se fait vraiment dans la langue et dans l'écriture. Il est presque écrivain malgré lui, mais il est profondément un écrivain, c'est-à-dire que sa pensée s'explicite à lui-même en s'écrivant d'abord à l'état de notes, puis en se reformulant, etc. Il y a là quelque chose de tout à fait séduisant. Alors il faut savoir lire Valéry peut-être en désordre aussi, suivant ses propres envies, ses propres inclinations. Alors, et même des recueils comme Tel quel, par exemple, ne doivent pas forcément se lire de la première à la dernière page.
Mais d'ailleurs, on n'a pas trop le choix, Benoît Peters, parce que son œuvre est éclatée, vous l'avez dit, son œuvre est une œuvre sans œuvre, ces cahiers qu'il a écrits. D'ailleurs, il faudrait peut-être décrire une journée quotidienne de Paul Valéry, où il se levait peu après la crise de Gênes, il décide d'avoir une véritable discipline, et il y a un refoulement de l'amour, du sentiment, de la peur du débordement. Tous les matins, jusqu'à la fin de sa vie, il se lève à 5 heures du matin, il se fait un café, il se roule une cigarette et il commence à travailler jusqu'à 8 heures. Il est inspiré par les facsimilés des carnets de Léonard de Vinci. Il consigne tout dans des livres de bord, dans ce qui deviendra donc ses cahiers.
Alors, pourquoi fait-il cela? D'abord parce qu'il a des obligations familiales, bientôt l'obligation professionnelle d'aller rejoindre le vieux monsieur Lebet le matin. Il considérera que entre 5h et 8h, dans cette extrême concentration qui est la sienne, il a fait sa journée. Il a pensé pour lui. Quand plus tard, il n'aura plus les mêmes obligations, eh bien, il devra répondre à un courrier abondant, écrire des textes de commande, mais il gardera l'habitude de 5h à 8h du matin d'avoir l'œuvre essentielle. Et quand on se moquera parfois de sa vie sociale, de sa mondanité, il dira, mais de toute façon, ce travail d'extrême concentration, je ne pourrai pas le poursuivre tout au long de la journée. Donc, le matin est pour lui, le reste de la journée est pour les autres.
J'ai une question, Benoît Peters. Qu'est-ce qui meut Paul Valéry? Si vous dites qu'il a été un écrivain malgré lui, si finalement il n'y a pas d'œuvre sur laquelle, une œuvre sur laquelle se reposer, qu'est-ce qui lui donnait envie malgré tout d'écrire? C'est quoi son projet en fait?
Se refaire un cerveau. C'est une expression qu'il emploie. Ne pas se fier à ce qui a été pensé avant lui, ne pas se fier à tout ce que les mots peuvent cacher, le mot temps, le mot durée, le mot espace, le mot corps même. Tous ces mots lui semblent souvent utilisés de manière fallacieuse par la tradition philosophique. Mmh. Il veut se refaire un vocabulaire, se construire une méthode qui est une méthode décapante.
Et pourquoi ? Selon vous, quelle est votre explication? Pourquoi il a ce désir-là? Il n'est pas devenu philosophe comme Descartes, mais il a rendu des très beaux hommages à Descartes. Et on voit bien la proximité entre ces nuits de crise entre Descartes et lui.
Alors, vous savez, on a une idée française de la philosophie qui est au fond, depuis plusieurs siècles, la philosophie des professeurs. Une philosophie qui se transmet dans un enseignement académique. Mais Valéry, qui est nourri de la pensée antique, notamment de Platon, Valéry qui admire par-dessus tout Nietzsche et Descartes, a une autre idée de la philosophie. C'est une philosophie beaucoup plus incarnée, d'une certaine façon, beaucoup moins académique. Il dit, beaucoup des questions des philosophes, je ne les aurais jamais inventées, et beaucoup des questions qui me préoccupent, les philosophes ne s'y intéressent pas. Donc ça, c'est une idée, au fond, une tradition qui vient de Montaigne, Pascal, dans la culture française, mais qu'on retrouve dans beaucoup d'autres. Donc là, il y a un modèle très atypique qui fait que Valéry est quelquefois un peu coincé entre une image de poète, une image d'écrivain, une image de penseur qui n'entre pas bien mise ensemble dans les catégories françaises. Au fond, Gaston Gallimard, son éditeur, rêvait de lui voir écrire un roman, il disait, écrivez-moi un roman cérébral et sensuel et je vous couvrirai d'or. Ce roman n'a pas existé, Valéry n'a pas été couvert d'or, mais il nous a laissé finalement quelque chose de bien plus important. Quand on regarde, je vais dire peut-être quelque chose de pas convenable, mais quand on regarde la stature de Gide et celle de Valéry, au départ, c'est Gide l'œuvre majeure avec ses récits, avec le grand roman des faux monnayeurs, etc. Mais je crois qu'aujourd'hui, les cahiers de Valéry nous parlent plus que le journal de Gide et les éclats somptueux de Monsieur Test et d'un certain nombre d'autres textes de Valéry nous parlent peut-être plus que les scrupules moraux et immoraux de Gide. Je crois qu'il y a ces deux hommes qui ont été à la fois très amis et en rivalité, mais je crois que la modernité aujourd'hui, elle est du côté de Valéry plus que de Gide.
Et c'est vrai qu'on est frappé, Benoît Peters, en lisant Paul Valéry. Alors je ne prétends pas avoir tout lu de Paul Valéry, bien évidemment. Non, je ne vous crois pas, vous avez déterré.
J'ai pas lu les 28 000 pages des cahiers, il y a des anthologies, je me suis promené. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs une matière qui est accessible en ligne sur Gallica, on peut s'y promener. Mais bien sûr, on ne peut pas vivre dans ces 28 000 pages, dont certaines à l'état de notes.
Oui, on en rate forcément quelques-unes.
Il y a une très belle édition qui existe aujourd'hui dans la Pochothèque, qui avait été préparée par Michel Jarty et qui nous donne une bonne porte d'entrée dans cette œuvre. Et dans cette œuvre où il faut se frayer, comme je le disais, son chemin. Et puis ne pas sous-estimer ce Valéry intime qui, pour moi, est peut-être le plus moderne et le plus touchant.
C'est ça qui est frappant, et c'est ce que j'allais dire, Benoît Peters, c'est vraiment, et vous l'avez dit, ce côté profondément contemporain. J'ai été frappée, vous l'avez dit, par le doute, mais on pourrait dire aussi par l'angoisse. Il dit « angoisse, mon véritable métier », par cette incertitude, cette indétermination, le fait de différer sans cesse, et en même temps le fait de penser quand même qu'il a peut-être quelque chose de génial à dire. C'est-à-dire ce basculement, ce balancement entre l'auto-dénigrement et en même temps, l'idée qu'il a quelque chose à faire malgré tout.
Oui, et dans cette dispersion qui parfois l'a découragé, l'œuvre s'est accomplie. Il le dit dans une des dernières notes des cahiers. Après tout, j'ai fait ce que j'ai pu. Et ce qu'il a pu, cette modestie, c'est quelque chose d'énorme, d'immense. Et pensons aux traces qu'il a laissées dans le monde entier. Et par exemple, pensons à ce beau film de Miyazaki, Le vent se lève, où on voit un jeune garçon et une jeune fille se réciter au Japon dans les années 30. Les vers de Valéry, Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Voilà, Valéry nous vient aussi d'ailleurs, d'autres pays où peut-être on l'a mieux lu, plus étudié, mieux compris, en étant débarrassé de cette gangue d'officialité qui a certainement nui à la redécouverte de son œuvre. Mais aujourd'hui, le temps de Valéry est vraiment venu.
Merci beaucoup, Benoît Peters. De vous, on peut donc lire Paul Valéry, Une vie, c'est disponible en Champ Flammarion.
Ce vent est tellement agréable.
Mademoiselle, votre chapeau va s'envoler.
Ne vous inquiétez pas.
Attention! Tout va bien?
Oui, merci.
Vous êtes habile. Merci.
Le vent se lève.
Il faut tenter de vivre.
Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Le vent se lève. C'est vraiment un très beau poème.
Je rappelle que toutes les œuvres de Paul Valéry sont disponibles aux éditions Gallimard. Et un grand merci à Nicolas Berger pour la réalisation, à Anthony Thomasson pour la prise de son. Rendez-vous demain pour la suite de cette série « Avoir raison avec Paul Valéry » et d'ici là sur le site de France Culture ou sur l'appli Radio France.